je suis retourné à Sebago sur un petit nuage. Mais quand j'ai repris la route de Durham le matin du 15 novembre, la gelée blanche qui couvrait les champs était si épaisse qu'on pouvait suivre à la trace les hordes de chasseurs déjà sur le terrain, mon humeur avait changé. Ils auront appelé la police d'État ou la gendarmerie locale, me disais-je. Et pendant qu'on me questionnera au poste de police le plus proche pour essayer de savoir quel genre de cinglé je suis, Cullum partira chasser dans les bois de Bowie Hill. Il n'y avait pas de voiture de police dans l'allée. Seulement le break Ford Woody d'Andy Cullum. J'ai pris ma planche de crib sous le bras et suis allé frapper à la porte. Le jeune homme m'a ouvert en disant « Prêt pour votre leçon, monsieur Humberson ?» J'ai répondu avec un sourire. « Oui, monsieur, fin prêt. » Il m'a emmené sous la galerie de derrière. Je pense que la patronne ne voulait pas que je sois avec elle et le bébé dans la maison. Les règles du crib étaient simples. Les piquets représentaient les points et la partie se jouait en deux tours autour de la planche. Andy me renseigna sur la meilleure main à 29 points et la main impossible à 19 points qu'il qualifia de 19 mystiques. Puis nous jouâmes. Au début, je parvins à tenir le compte des points. Puis je renonçai lorsque mon instructeur prit 400 points d'avance. À intervalles plus ou moins réguliers, on entendait des chasseurs tirer des salves lointaines, et Cullum tournait alors la tête vers les bois au-delà de son petit jardin. « Samedi prochain, » lui ai-je glissé. « Samedi prochain, vous y serez.
Ah, »« Il va sûrement pleuvoir, » me dit-il.
Puis il se mit à rire.
« Je devrais râler, hein. Je suis en train de m'amuser et de gagner de l'argent. Et vous jouez de mieux en mieux, George. »
À midi, Marnie nous offrit un déjeuner composé d'un bol de soupe à la tomate maison et d'un grand sandwich au thon. Nous le prîmes à la cuisine, et quand nous eûmes terminé, la maîtresse de maison nous suggéra de rentrer jouer à l'intérieur. Elle avait décidé que je n'étais pas dangereux, en fin de compte. Cela me fit plaisir. C'étaient des gens sympathiques, ces Cullum. Un joli couple, parents d'un joli bébé. J'ai parfois pensé à eux, en entendant Lee et Marina Oswald se crier dessus dans leurs appartements de seconde zone, ou en les voyant, au moins une fois, donner libre cours à leur animosité en pleine rue. Le passé s'harmonise. Il tente également de s'équilibrer. Et il y réussit la plupart du temps. Les Cullum se situaient à une extrémité de la bascule, les Oswald à l'autre. Et Jake Epping, également connu sous le nom de George Humberson, lui se trouvait au centre de gravité, au point où la bascule s'articulait. Vers la fin de notre marathon, j'ai remporté ma première partie. Trois parties plus tard, à 4 heures tout juste passées de quelques minutes, j'ai mis Andy Skunk, remportant d'un coup l'équivalent de 2 parties. J'en ai ri de plaisir. La petite Jenna rit avec moi, puis se penchant en avant sur sa chaise haute, me tira affectueusement les cheveux.
« Ah, enfin ça y est !» me suis-je exclamé en riant.
Les trois Cullum riaient avec moi maintenant.
« Je vais m'arrêter sur cette victoire !»
J'ai sorti mon portefeuille et déposé 3 billets de 50 sur la toile cirée à carreaux rouges et blancs de la table de la cuisine. Et ça en valait chaque cent. Andy a repoussé l'argent vers moi.
« Remettez-les dans votre portefeuille, George. Je me suis trop bien amusé pour prendre votre argent. »
J'ai hoché la tête comme si je l'approuvais, puis j'ai poussé les coupures vers Marnie qui les a prises.
« Merci, monsieur Humberson. »
Elle a glissé un regard de reproche à son mari, puis m'a de nouveau regardé. « Nous leur trouverons une utilisation. »«
Bien. »
Je me suis levé et tiré, et j'ai entendu ma colonne vertébrale craquer. Quelque part, à 5 ou 6 kilomètres de là, Caroline Poulain et son père remontaient dans un pick-up marqué « Poulain Construction et Charpente » sur la portière. Peut-être avait-il tué un cerf. Peut-être n'avait-il rien eu. Dans tous les cas, j'étais sûr qu'ils avaient passé un bel après-midi dans les bois,
à bavarder de ce dont tous les pères et filles bavardent entre eux. Et j'étais content pour eux.
« Restez dîner, George, » me pria Marnie. « J'ai prévu des haricots et des hot-dogs. »
Je suis donc resté, et nous avons ensuite regardé les actualités télévisées sur leur petit poste de table. Il y avait eu un accident de chasse dans le New Hampshire, mais aucun dans le Maine. Je me suis laissé convaincre de reprendre du moelleux aux pommes de Marnie, puis je me suis levé et les ai remerciés chaleureusement pour leur hospitalité.
Andy Cullum m'a tendu la main. « La prochaine fois, nous jouerons pour rien, d'accord ?»«
D'accord. » Il n'y aurait pas de prochaine fois. Et je pense qu'il le savait. Sa femme le savait aussi, apparemment. Elle m'a rattrapé juste avant que je ne monte en voiture. Elle avait enveloppé le bébé dans une couverture et couvert sa tête d'un petit bonnet, mais elle-même n'avait pas pris de manteau. Je voyais la vapeur de son souffle monter devant elle, et elle grelottait.
« Madame Cullum, vous devriez rentrer avant d'attraper mal.
De quoi l'avez-vous sauvée ?»«
Je vous demande pardon. »
« De quoi l'avez-vous sauvée ? Je sais que c'est pour ça que vous êtes venu. J'ai prié Dieu de m'envoyer une réponse pendant que vous étiez dehors sous la galerie à jouer avec Andy. » Dieu m'a en partie répondu, mais il ne m'a pas donné toute la réponse. De quoi l'avez-vous sauvé ?
J'ai posé mes mains sur ses épaules frissonnantes et je l'ai regardé dans les yeux.
Marnie, si Dieu avait voulu que vous le sachiez, il vous l'aurait dit.
Brusquement, elle a jeté ses bras autour de moi et m'a étreint. Surpris, je l'ai étreinte à mon tour. Prise au milieu, la petite Jenna levait de grands yeux vers nous.
« Quoi qu'il en soit, je vous remercie », m'a chuchoté Marnie à l'oreille.
Son souffle chaud m'a donné la chair de poule.
« Rentrez, Marnie, avant de vous geler. »
La porte d'entrée s'est ouverte. Andy se tenait là, une canette de bière à la main.
« Marnie ?» Marne ?
Elle recula. Ses yeux étaient grands et sombres.
Dieu nous a envoyé un ange gardien, dit-elle. Je n'en parlerai à personne, mais je le conserverai précieusement dans mon cœur. Et je méditerai.
Puis elle courut retrouver son mari en haut des marches.
Ange gardien. C'était la deuxième fois que j'entendais ces mots. Et moi aussi, je les ai médités dans mon cœur ce soir-là en attendant le sommeil, couché dans mon petit chalet au bord du lac. Et aussi le lendemain, en laissant mon canoë dériver sur l'eau calme du dimanche sous un ciel bleu et froid, préfigurant l'hiver. Ange gardien.
Le lundi 17 novembre, les premiers flocons de neige tourbillonnaient et j'y ai vu un signe. J'ai fait mes bagages, roulé jusqu'à Sebago Village et trouvé Mr. Witchell qui prenait un café en mangeant des donuts au restaurant Lakeside. En 1958, les gens mangeaient beaucoup de donuts. Je lui ai remis mes clés en lui disant que j'avais passé de merveilleuses vacances régénérantes. Son visage s'illumina.
« Tant mieux, Monsieur Humberson, parce que c'est comme ça que ça doit être. Vous m'avez payé jusqu'à la fin du mois. » « Donnez-moi une adresse ou vous envoyez le remboursement de vos deux dernières semaines et je mettrai un chèque au courrier. »«
Je ne connaîtrai ma destination que lorsque mon chef au bureau aura pris sa décision, lui ai-je dit. « Mais je veillerai à vous écrire. » Les voyageurs temporels mentent beaucoup. Il me serra la main.
« C'était un plaisir de vous recevoir. »
« Le plaisir était pour moi. » Je suis monté en voiture et j'ai pris la direction du sud. Ce soir-là, je suis descendu au Parker House à Boston et suis allé faire un tour dans le quartier malfamé qu'on appelle la zone de combat. Après des semaines de paix au bord du lac Sebago, les néons m'aveuglaient et les houles de rôdeurs nocturnes, des hommes jeunes pour la plupart dont beaucoup étaient en uniforme, m'ont fait me sentir agoraphobe et nostalgique de mes nuits paisibles dans l'ouest du Maine,
où les rares magasins fermaient à 6 heures du soir et la circulation se tarissait à 10. J'ai passé la nuit suivante à l'hôtel Harrington, à Washington, D.C. 3 jours plus tard, j'étais sur la côte ouest de la Floride.